Bonjour, mon nom est Michel Pion, actuel président de l'Association humaniste du Québec, et bienvenue au balado humaniste. La tolérance. S'il y a une vertu qui est chère aux humanistes, c'est bien celle-là. C'est un des fondements de l'éthique et de la vision du monde humaniste. Mais existe-t-il une telle chose que d'être trop tolérant? À quel moment la tolérance devient une acceptation béate de l'intolérable? À quel moment devrions-nous se poser la question? Pour nous aider à y voir plus clair et répondre à cette question, nous avons avec nous aujourd'hui M. Raymond Massé. M. Massé a publié récemment un livre « La tolérance pervertie » aux éditions Les Belles Lettres en mai 2022. Raymond Massé a fait carrière comme professeur d'anthropologie à l'Université Laval, auteur de plusieurs ouvrages traitant des rapports entre culture, éthique et santé publique. Il a mené des recherches ethnologiques sur plusieurs décennies dans les sociétés créoles post-coloniales des Antilles françaises et anglaises. Il s'est intéressé plus récemment aux contributions des sciences sociales à l'éthique et à la morale. Ses recherches portent aujourd'hui sur les défis de la tolérance face aux quêtes de reconnaissance dans lesquelles se sont engagées les minorités ethno-culturelles et religieuses des sociétés multiculturalistes. Alors, bonjour M. Massé, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, entrons dans le vif du sujet. Dans votre livre, comme le titre le suggère, vous soutenez que la tolérance est menacée par toutes sortes de courants, qu'ils soient religieux, ethnocentristes. On pense à l'idéologie woke, qui semble complètement rejeter toute tolérance si on n'est pas dans l'orthodoxie du moment. On est carrément cloué pilori à ce moment-là. Est-ce que, selon vous, il s'agit d'un phénomène récent?
Oui et non. Oui, dans un sens, parce qu'il y a une modalité de la critique sociale qui est complètement nouvelle maintenant. Mais évidemment, la critique des idéologies ou des pensées dominantes, c'est pas nouveau. Cette idéologie woke-là s'inscrit dans la mouvance d'une pensée critique qui existe depuis au moins Descartes, Kant et compagnie. Mais là, ici, maintenant, on est dans une nouvelle forme, plus de contre-discours, même s'il est nécessaire ce contre-discours-là. Mais le problème, c'est qu'il prend maintenant des formes plus dogmatiques, dans lesquelles la nuance est un peu mise de côté. Le discours est beaucoup plus radical qu'il l'était avant. Évidemment, il y avait des intellectuels qui avaient des pensées plus radicales, il y avait des critiques qui étaient quand même radicales, mais c'était des critiques qui venaient de certaines personnes, essentiellement des intellectuels, parfois des religieux, des philosophes, des sociologues, etc. Maintenant, la critique, elle est popularisée dans le sens où tout le monde, tous les citoyens ont une parole, un droit de parole. Évidemment, avec les nouveaux médias de masse, les nouveaux réseaux sociaux, cette parole critique-là, elle s'organise. Elle n'est plus le fait simplement de quelques individus séparés, individuels, là. Bien qu'encore, bon, évidemment, il y a des gens qui ont encore cette pensée critique-là. Mais maintenant, on est face à un phénomène qu'on a souvent appelé de tribalisme virtuel. C'est-à-dire qu'il y a des groupes communautaires ou des groupes qui vont se regrouper selon différents critères, mais qui vont partager un discours critique et qui vont s'encourager entre eux. Ils vont avoir une émulation de ce discours critique-là, entre ces groupes-là. Et on connaît un peu le fonctionnement des réseaux sociaux avec les algorithmes qui font en sorte que finalement, on tourne un peu en boucle. Hein, au fur et à mesure où on consulte des documents, où on échange avec des gens sur le web, en particulier dans les réseaux sociaux, sur Internet, évidemment, on finit par être toujours en interaction avec des gens qui pensent un peu comme nous. Alors, dans ce sens-là, il y a un sentiment d'indignation, il y a une spirale de l'indignation, ce que j'ai appelé dans le bouquin, qui fait en sorte que, effectivement, le discours critique devient de moins en moins nuancé, de plus en plus. Alors, tout devient en même temps un peu prétexte à nourrir cette critique un peu radicale. Tout ce qui sont de l'ordre de l'inconfort ou des sentiments d'injustice finissent par nourrir, en fin de compte, ce discours-là. Tout est perçu comme des micro-agressions de la part de ces groupes, en guillemets, virtuels, tu sais, qui vont tenir enfin un discours. Alors, c'est la liberté d'expression, c'est bien sûr, mais la liberté d'expression, maintenant, elle est vraiment organisée en sous-groupes qui se donnent une identité. Tous les groupes maintenant sont en quête d'identité. On est vraiment dans une course à l'identification, les micro-identifications. Alors, on le voit dans le domaine de la sexualité avec la multiplication des LGBTQ et compagnie. Dans le domaine politique aussi, bon, évidemment, il y a quand même des groupes, des mouvements politiques, on le voit aux États-Unis avec la bipolarisation qui sont très, très structurés. Mais en même temps, il y a toutes sortes de petits groupes militants qui défendent des points particuliers, qui sont tout à fait justifiables dans certains cas, mais qui vont devenir radicalisés et structurés autour de groupes qui sont, oui, virtuels, mais qui vont finir par se rattacher finalement à des sous-groupes sociaux, des sous-groupes politiques, ou des sous-groupes écologiques, des sous-groupes religieux, des sous-groupes qui portent des identités de genre différentes et tout ça. Donc, on est, pour revenir à votre question, cette pensée critique-là, elle a toujours existé, mais la forme woke qu'elle prend actuellement est totalement différente de l'allure qu'elle avait, ne serait-ce qu'il y a quelques décennies, puis encore moins il y a quelques siècles. Les réseaux sociaux ont un rôle vraiment important à jouer, je pense, dans cette nouvelle structuration-là de la pensée et du discours critique.
Vous mentionnez également dans votre livre que la tolérance n'est ni refus de juger, ni une abdication, ni une déférence, pardon, aveugle. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu là-dessus?
Oui. À mon avis, actuellement, la principale forme de perversion de la tolérance est un peu sa banalisation. Ça fait un peu la suite à ce qu'on mentionnait tantôt. Tous les inconforts, tous les sentiments d'injustice deviennent prétexte à dénonciation, quelque part. Donc, tout devient objet d'intolérance ou de défense de la tolérance, dans un certain sens. Alors, le sens profond de la tolérance, il est bafoué, parce que c'est le respect devient inconditionnel lorsque l'autre personne ou l'autre groupe ou l'autre façon de penser n'est pas respectée du fait qu'il est différent. Alors, la tolérance n'implique pas de respecter naïvement tous les autres porteurs de croyances ou de pratiques, hein. On peut même au contraire soutenir que c'est peut-être même l'abstention de toute critique qui devient elle-même, qui peut conduire à la dénonciation puis à l'interdiction qui constitue un manque de respect. Ne pas critiquer les autres, c'est aussi un manque de respect. Ça veut dire qu'on peut considérer l'autre comme qui n'étant pas apte ou digne de réponse structurée. Alors, l'abdication par rapport à la critique n'est pas une forme de tolérance. Et ça devient finalement bon, une banalisation aussi de cette tolérance-là. Alors, la tolérance n'a pas non plus rien à voir avec la neutralité ou avec l'indifférence. Si on est indifférent à l'autre, ce n'est pas un signe de tolérance. Si la tolérance est une nécessité du pratique de vivre ensemble, bien, elle déborde, en tout cas certainement de la simple condescendance par rapport à l'altérité, c'est sûr. Alors, sinon, la tolérance advient, si on ne fait pas ça, la tolérance devient au service d'une multiple quêtes de reconnaissance identitaire en attente de respect. Surtout, la tolérance va finir par signifier l'abdication par rapport à tout projet de société rassembleur. Mais ça, je vais y revenir plus tard, à cette notion-là, en termes de conditions de la tolérance. Puis même, parfois, dans certains cas, puis on le voit, puis là, il y a de plus en plus de travaux qui sont faits là-dessus, la tolérance peut même devenir immorale. On a souvent tendance à dire que la tolérance est une vertu, évidemment, et même dans nos sociétés actuelles, surtout dans les sociétés bon, libérales, social-démocrates et tout ça, c'est la quintessence hein, de la vertu, de la moralité, si on veut. Mais elle peut devenir immorale dans la mesure où tout tolérer implique tolérer certains gestes, certaines opinions, certaines politiques qui sont préjudiciables à certains groupes sociaux, à certains sous-groupes en particulier. Alors, la tolérance peut devenir immorale si elle donne, par exemple, une légitimité à des pratiques sociales, ou en particulier aussi à des pratiques religieuses qui ne respectent pas les droits fondamentaux de l'homme, entre autres les droits de l'homme à la base. Alors, par exemple, si au nom de la tolérance, de tradition religieuse, par exemple, on refuse le droit des femmes à l'éducation ou au travail, qui est un droit fondamental, alors il y a la tolérance par rapport à des dogmes religieux ou à des orientations religieuses ou séculaires peut amener, transformer la tolérance en pratique immorale. Lorsqu'on impose un mariage forcé, par exemple, à des adolescentes, au nom, encore là, d'une tolérance et qu'on tolère, parce qu'on sait très bien que, bon, au Canada, mais aussi au Québec, aux États-Unis, dans plusieurs sociétés maintenant, les mariages forcés, même s'ils sont moins évidents, ils sont un peu plus cachés, mais ils existent toujours. Et on est surtout dans une société multiculturaliste, on était très, très tolérant par rapport à ces pratiques-là. Officiellement, on s'y oppose, mais dans la pratique, au sein de plusieurs communautés, les mariages forcés continuent à exister. Au nom de la tolérance. Alors, au nom de la tolérance, on tolère des empiétements fondamentaux sur les droits humains. Lorsqu'on tolère aussi des sévices qui sont imposés à des membres à l'intérieur de sectes religieuses, la tolérance devient un peu immorale aussi. Alors, il faut être prudent par rapport donc à ces limites à mettre à la tolérance. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai fait appel beaucoup, je pense que c'est... Il faut défendre ce point de vue. Je crois qu'il mérite ce point de vue-là d'être défendu. Faire appel à une tolérance qui a une double face, double facette. Une tolérance critique, mais en même temps une tolérance qui est engagée. Alors, la tolérance, elle doit être critique, évidemment, par rapport au fait de confiner la tolérance à n'être que simplement une abdication ou une neutralité ou une indifférence, parce que là, on tombe dans un relativisme qui est paralysant. Au pire, c'est de la déférence, ça devient une déférence par rapport à l'autre, n'importe quel autre. Déférence, c'est-à-dire c'est un respect inconditionnel par rapport à cette altérité-là. Alors donc, on doit être critique de cette abdication-là. On doit être critique des instruments aussi communautaristes qui vont instrumentaliser la tolérance pour des finalités qui sont nécessaires, en fait, dans certains cas, qui peuvent devenir préjudiciables à certains sous-groupes à l'intérieur des communautés ethniques ou religieuses en question. Puis il faut être critique aussi, et ça rejoint un peu ce qu'on discutait tantôt sur le wokisme, il doit être critique des discours victimaires, puis ce que j'appelle un peu des hystéries de l'indignation, qui sont alimentées par des militants qui sont bien intentionnés, mais des militants d'une tolérance qui elle-même risque de devenir à la limite immorale. Donc, la tolérance, elle ne peut pas être neutralité ni abdication, elle doit être critique. Elle doit être une tolérance qui est engagée dans la mise en évidence, évidemment, du bien fondé de la tolérance. Il n'y a pas question, évidemment, d'empêcher la tolérance. Il faut militer pour une tolérance. Mais une tolérance inconditionnelle ne peut mener qu'à des problématiques importantes. Mais cette tolérance-là doit être aussi engagée. Ce n'est pas simplement dénoncer les intolérances, autant des gens de droite ou de gauche ou de quelque groupe que ce soit, mais il faut qu'elle soit une tolérance engagée dans la promotion de valeurs et de normes qui vont définir les conditions, mais aussi les limites du vivre ensemble dans notre société. Alors, il y a des valeurs universelles qui ne peuvent pas découler d'autre chose que d'un consensus qui est obtenu après une discussion ouverte, bon, démocratique, mais une discussion éthique aussi, qui va porter sur les conditions du respect d'une liste minimale de valeurs universelles et d'une liste minimale aussi de normes qu'une société donnée, une société en particulier, s'est donnée à une époque donnée, comme étant les conditions d'un vivre ensemble. Et ça, la tolérance doit être un engagement pour faire la promotion de ces normes et de ces valeurs universelles et propres à la société. Évidemment, parce que les normes, elles varient d'une société à l'autre. Alors, évidemment, la tolérance doit être modulée un peu en fonction des normes que la société va se donner, tout en sachant que ces normes, enfin, en guillemets locales, mettons des normes québécoises ou des normes canadiennes, doivent toujours être subordonnées au respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux, qui sont des droits universels, qui, eux, doivent être au-dessus des normes locales. Les normes locales étant des ajustements, des adaptations, ou pour prendre un concept qui a été galvaudé un peu, des accommodements par rapport à ces valeurs universelles-là, mais sans des accommodements qui ne doivent pas aller jusqu'à les nier. Alors donc, c'est une tolérance qui est engagée avec un défi qui va être de mettre l'accent moins à ce moment-là sur ce qui nous distingue que sur ce que nous avons tous en partage en tant qu'humains. En même temps, une tolérance qui doit être engagée, si on veut aller plus loin là-dedans, dans la proposition d'un projet de société qui, lui, va être rassembleur. C'est la fameuse notion, peut-être, des raisons communes laïques, par exemple, que Fernand Dumont développait ou proposait au Québec, là, le but ultime n'aurait pas de chance, ce but ultime-là n'aurait pas de chance d'être atteint, que s'il n'y a pas des efforts qui sont guidés par un projet de société qui va dépasser la promotion des seuls droits individuels, même aussi des droits communautaires, mais qui vont s'inscrire dans un projet de société qui, lui, va être rassembleur. Rassembleur, évidemment, pour les différents sous-groupes de la majorité, mais rassembleur aussi pour les minorités dans la société. Donc, la tolérance ne peut pas être neutre, elle ne peut pas être indifférente, elle ne peut pas être une abdication ou un refus de s'impliquer. Elle doit être critique de ce qui alimente l'intolérance et en même temps engagée dans la promotion, de façon plus positive, dans la promotion de valeurs rassembleuses, ajustées évidemment aux besoins de chacun des sous-groupes, aux attentes, aux aspirations de chacun des sous-groupes, mais quand même suffisamment rassembleuses pour que tout le monde y retrouve une raison de vivre en commun.
Lorsque vous parlez de tolérance pervertie, qu'est-ce que vous avez en tête?
En fait, le sens premier de la tolérance, fondamentalement, c'est d'être une valeur rassembleuse. Une valeur qui va favoriser les rapprochements entre les groupes sociaux qui sont antagonistes, enfin opposés, qui n'ont pas les mêmes philosophies de vie ou les mêmes religions dans une société donnée. Malheureusement, il y a des versions radicales qui en font indirectement un ferment de division puis d'exacerbation des tensions ethnoculturelles ou religieuses dans la société. Fait que, à mon avis, pour l'instant, je vais peut-être énumérer 4 formes de perversion. La première, évidemment, c'est que son sens premier d'ouverture et de discussion constructive qui est perverti. Sa mission première, c'est de rassembler dans le respect d'une éthique de la discussion. Évidemment, si on se braque et qu'on attaque, on considère tous ceux qui ne pensent pas comme nous comme étant des ennemis, et qu'on s'attaque même jusqu'à personnellement à ces individus-là, il n'y a pas de discussion possible. Et dans le contexte actuel, et c'est un peu le propre aussi de l'idéologie woke, il y a peu de place à la discussion. On est vraiment dans une position de combat des idées des autres. Évidemment, la tolérance comme valeur rassembleuse, on n'est plus là. C'est une tolérance qui vise plus à diviser. Parce que qu'elle nous vise à faire, mais elle, la conséquence de la division, c'est alimenter que les rapprochements, finalement. Alors, la première perversion, c'est de pervertir ce sens-là d'éthique de la discussion. La tolérance favorise une discussion démocratique où chacun a droit de parole, évidemment, et chacun a droit d'être bien écouté, mais en même temps, évidemment, là, cette éthique de la discussion-là, ce respect de la discussion, il est mis vraiment sérieusement en péril. La deuxième perversion qu'on peut voir dans ce sens-là, c'est que en mettant toute croyance ou toute pratique ou toute tradition sur un pied d'égalité, la version de la tolérance que va en offrir donc un genre de relativisme radical va disqualifier d'emblée tout débat qui porte sur les conditions et les limites de son application. À mon avis, la tolérance doit en même temps admettre un débat sur les limites de ce qui peut être toléré et les conditions sous lesquelles on peut tolérer certains gestes, certains actes ou certaines positions ou certaines politiques. Alors là, s'il n'y a pas de discussion sur ces conditions-là, évidemment, il n'y a plus de tolérance. Enfin, on pervertit le sens ou la mission fondamentale de la tolérance, qui est bien sûr de favoriser la discussion, une éthique de la discussion, mais en même temps, de faire en sorte que cette discussion-là porte sur les limites et les conditions. À quelles conditions peut-on tolérer telle ou telle action pratique, etc. Troisième perversion, c'est que la société semble se replier sur une tolérance d'abdication passive et désengagée, on en a déjà parlé un peu, mais donc une tolérance d'abdication qui va disqualifier toute réflexion critique sur les enjeux qui sont soulevés par un culte voué à la différence. C'est une question qui a l'air peut-être un peu philosophique, mais pourquoi respecter la différence? En quoi la différence est-elle une valeur qu'on doit soustraire au débat en lien avec la tolérance? Évidemment, il ne s'agit pas ici de discriminer toute différence et de rejeter toute différence, mais effectivement, si on veut discuter sur les conditions et les limites de la tolérance, c'est la tolérance à quelle différence, à quelque part. Et pour l'instant, on est plus dans un discours dominant de tolérance qui fait en sorte que tout ce qui est différent toute altérité est quasiment sacralisée. Différences sexuelles, différences religieuses, différences de positionnement politique, et même qu'on va, et là, c'est la course et la différence. C'est fou un peu de voir dans notre société, mais tout le monde tente de se créer une identité, de se bâtir une identité, multiple d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule identité, mais il se construit cette identité-là, et à l'aide de du sous-groupe ou du groupe virtuel dont on parlait tantôt, dans lequel ils vont s'inscrire, on va vouloir faire la promotion de cette diversité-là, presque à tout prix, quoi. Et on entre dans un phénomène, une lutte de quête de reconnaissance. Notre société est marquée profondément par la quête de reconnaissance, une quête militante, hein, très très forte, de reconnaissance de tout petit groupe ou groupuscule qui revendique le droit à la différence. Alors, là aussi, si on ne peut plus débattre ou si on ne peut pas remettre en question cette sacralisation-là de la différence au départ, vraiment, à mon avis, le sens de la tolérance, son sens premier de débat et d'éthique de discussion éthique, il est bafoué. Dernière perversion, mettons, une quatrième perversion, on pourrait allonger la liste évidemment beaucoup, mais en devenant un militantisme de combat radical, la version radicale de la tolérance pervertit le débat en la rabaissant au rang de combat par tous les moyens possibles, y compris évidemment, la désinformation, le dénigrement personnalisé, on est vraiment dans une logique d'attaque très personnalisée, hein, quelque part là-dedans, ou carrément, cette fameuse pratique de l'annulation de toutes les productions artistiques, publiques, qui vont être considérées comme étant des collaborations avec les exploiteurs. La tolérance, on s'en revient encore à cette discussion éthique-là, la tolérance ne peut pas s'affirmer fondamentalement, comme entendre, comme valeur universelle, si elle sombre dans le combat radical. Évidemment, elle peut être militante, on peut avoir une tolérance militante, la tolérance, on doit militer pour la tolérance, évidemment, dans la société, c'est bien évident, mais, enfin, toujours en respectant l'éthique qui doit guider les débats et les discussions et l'écoute de l'ensemble des parties dans la société.
Votre livre contient un chapitre qui m'a vraiment intéressé sur le multiculturalisme. Je vous avoue que comme humaniste, enfin c'est peut-être pas tous les humanistes, mais c'est une vision peut-être plus personnelle, mais j'ai pas une très très bonne idée, ou je suis pas très positif sur l'idée du multiculturalisme à la canadienne. Comme vous le mentionnez vous-même dans votre livre, le multiculturalisme favorise le repli identitaire et les communautés fermées sur eux-mêmes, pour ne pas dire la création de ghettos. Certains de ces communautarismes sont parfois en contradiction flagrante avec les valeurs d'une majorité. En tant qu'humaniste, moi je désire être quelqu'un de tolérant, mais si je me permets la moindre critique, je cours le risque de me faire traiter de tous les noms. Éthiquement, quel choix on a? Est-ce que c'est préférable de critiquer ou de se taire?
Et évidemment, se taire, c'est certainement pas la solution. Évidemment, comme anthropologue, évidemment, comme scientifique social, revendiquer le droit des sciences sociales de remettre en question, après analyse, après une analyse sérieuse, empirique, documentée, des avantages et des désavantages de tout un ensemble de phénomènes de société, y compris du multiculturalisme, comme politique, structurée, visant à, parce que l'objectif du multiculturalisme, c'est de viser l'intégration initialement, là, de viser quand même une certaine forme d'intégration des gens issus de l'immigration, des minorités culturelles et religieuses à l'intérieur d'une société. Alors, c'est sûr que se taire, c'est certainement pas la solution. Alors, il faut, c'est bien clair, savoir, c'est le mandat de toutes les sciences sociales, de savoir analyser avec ouverture, mais sans complaisance, les avantages et les désavantages, entre autres, du multiculturalisme. Alors, évidemment, il y a eu quand même beaucoup d'analyses qui en ont été faites, et pas seulement au Canada, d'ailleurs, et je dirais même plus dans d'autres pays, d'ailleurs, au cours des dernières années. Dans les années, entre autres, 1970-1980, il y a plusieurs pays qui ont vu, dans le multiculturalisme, qui prend vraiment plusieurs formes, des formes très, très différentes. Il n'y a pas une seule forme de multiculturalisme, il y en a plusieurs. La Grande-Bretagne a eu sa forme de multiculturalisme, les Pays-Bas ont développé une forme de multiculturalisme, l'Allemagne a tenté aussi une forme particulière aussi de multiculturalisme. On a tenté vraiment donc de mettre en œuvre ces politiques multiculturalistes dans une philosophie, dans une approche d'ailleurs humaniste. À l'origine, cette approche-là était humaniste, l'objectif étant de voir à l'intégration des minorités, ethniques ou religieuses, à l'intérieur d'une société, mais dans le respect des valeurs, des attentes et de la philosophie fondamentale de chacun de ces groupes-là. Respecter leurs traditions, respecter leur culture, respecter leur religion. Mais pour ce faire, évidemment, on a accepté, à des degrés divers et selon des modalités très, très diverses, que dans chacun de ces pays-là, que ces communautés-là, ces minorités-là, se donnent des structures communautaires qui vont leur permettre de reproduire leur culture et de pratiquer leur religion. Après une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années d'expérimentation, les analyses qui en ont été faites, les bilans qui en ont été faits, en particulier en Angleterre, dans les Pays-Bas et en Allemagne, ces bilans-là sont plutôt négatifs. Enfin, on se rend compte que, oui, il y a une forme d'intégration, mais l'intégration est plus, enfin, a pris plus la forme d'une intégration du migrant ou des membres des minorités à l'intérieur de leur propre minorité, qui est devenu un genre de micro-société à l'intérieur du pays. Et dans ce sens-là, la société devient plus comme une forme de mosaïque ou une courte pointe, pour prendre une image plus québécoise, une courte pointe dans laquelle il y a finalement un ensemble de minorités qui se sont structurées en communautés, ce qu'on a appelé le phénomène de communautarisme, le communautarisme étant à la fois la dynamique et de construction de ces communautés-là, et le résultat, la structuration de sociétés, de micro-sociétés, de communautés bien organisées à l'intérieur de chacun des pays. Alors, évidemment, la conséquence, en Allemagne, il y a eu évidemment des réactions, en particulier avec les communautés kurdes. En Grande-Bretagne, il y a eu plein d'analyses qui ont été faites aussi sur le sort qu'on a réservé à la construction des identités, un peu de façon forcée, en particulier dans la communauté noire. Les immigrants qui étaient en Grande-Bretagne, évidemment la Grande-Bretagne, ancien empire britannique, n'est-ce pas, avait plusieurs colonies un peu partout à travers le monde, y compris en Afrique. Et il y a des auteurs, des analystes, entre autres, qui sont penchés sur les communautés noires et qui voyaient que dans le fond, dans les années 1960-70, il n'y avait pas cette notion de communauté noire comme telle. Oui, évidemment, les gens de couleur se reconnaissaient comme ayant une caractéristique commune et vivant des formes de discrimination commune. Mais les gens s'identifiaient d'abord et avant tout à peut-être leur pays d'origine. Mais progressivement, avec l'encouragement que la Grande-Bretagne a donné au communautarisme, ben là, les gens se sont mis à se définir, ou à s'auto-définir d'ailleurs, comme étant membres comme d'une communauté une tribale à la limite. Selon la tribu dans laquelle il venait, il provenait, mettons, de l'Afrique ou d'autres communautés ethniques dans lesquelles il provenait de d'autres pays de l'ancien empire britannique. Alors donc, ce phénomène de communautarisme-là a amené, en fin de compte, une balkanisation des identités. Chacun là, est devenu replié dans sa communauté avec une nouvelle identité qui leur a été accordée. Et là, suite à une double dimension, une double dynamique, une dynamique, évidemment, de l'extérieur, évidemment, parce que là, il y a une pression. On ne peut pas nier le phénomène de discrimination, de racisme qui est prévalent, pas simplement dans ces sociétés-là, mais un peu partout à travers le monde, y compris au Canada, hein, évidemment. Évidemment, là, ces gens-là, ils se trouvent un peu, des fois, un peu poussés à se regrouper entre eux suite à la pression qui est exercée de l'extérieur par la population majoritaire. Alors, ces gens-là ont tendance à se rapprocher un peu entre eux. Mais ça, c'est pas nouveau et ce n'est pas déterminant à la limite, à mon avis. Ce qui était déterminant à la construction des communautés, c'est le phénomène de communautarisme, c'est-à-dire la dynamique que j'appelais intra-communautaire. L'exemple de l'Angleterre est extrêmement révélateur à ce moment-là. C'est exactement le même phénomène qui s'est produit ici au Canada et qui s'est produit aussi en Allemagne. L'État, voulant donner une chance aux migrants de vivre leur propre tradition, leur propre culture et de reproduire leur langue et leur religion, ils ont cherché à avoir des interlocuteurs, des leaders, hein, qui pouvaient être des porte-parole de chacune de leurs communautés. Ce qui s'est passé un peu là-dedans, c'est que ces leaders-là ont été généralement, très fréquemment, des leaders plus traditionnalistes. soit des religieux traditionnalistes ou soit des gens qui avaient un nationalisme, disons, très, très, très poussé et qui ont voulu pousser, qui ont poussé d'ailleurs, pas simplement voulu, mais qui ont créé une dynamique interne à chacun de ces communautés-là pour qu'elles se structurent, elles s'organisent et elles se replient en fin de compte sur elles-mêmes. Donc, le communautarisme est un peu le produit d'une double dynamique. La pression qui vient d'abord, dans un premier temps, de la société d'accueil, la population dominante, qui, par ses rejets, son racisme dans certaines circonstances, a poussé les gens à se replier un peu sur eux-mêmes parce qu'ils se sentaient rejetés par la société d'accueil. Mais surtout, et c'est là que les politiques multiculturalistes entrent en cause, parce que, à l'intérieur de ces communautés-là, une élite interne, une élite ethnique, va développer, encourager, évidemment avec l'apport et le soutien du pays, que ce soit le Canada, l'Angleterre ou l'Allemagne, avec le soutien de ces pays-là, ils vont travailler et même militer pour que les gens se replient sur cette identité-là, au point d'ailleurs où, évidemment, les gens vont finir par rejeter les normes de la société d'accueil. Ces élites locales, ces élites ethniques, vont, en fin de compte, faire la promotion de leurs propres normes au dépens du respect des normes promues par la société d'accueil. Le communautarisme a dépassé un peu son objectif initial, qui était le respect de la différence, pour devenir un peu un encouragement, un culte de la différenciation. Si c'était simplement le respect de la différence, oui, d'accord, on ne peut pas être contre ça. Mais lorsque ce respect-là devient un culte voué à la différenciation, donc l'accroissement et la culture, dans le sens de cultiver la différence et la différence ethnique et religieuse, et là, évidemment, là, ça commence à poser un peu un problème. Et il y a implicitement dans cette culte ou cette approche ou ces politiques multiculturalistes-là, deux perversions que moi j'ai identifiées de la notion de culture. La culture, évidemment, c'est bon, on ne se lance pas dans les longues définitions du phénomène de culture, évidemment, mais il y a une chose certaine, c'est qu'il y a, dans les politiques multiculturalistes, on a utilisé, ou on a joué, ou on a compté sur deux processus. Un que j'ai appelé, bon, le jargon sociologique, c'est la réification de la culture. Ça veut dire quoi? Une chosification. Enfin, quand on réifie, ça veut dire faire en sorte que les choses, que des éléments deviennent un peu comme des choses faciles à repérer. Et dans le domaine de la culture, en quoi ça consiste? Ça veut dire réduire la culture à une liste de traits culturels qui sont aisément identifiables et définissables. Alors, des traditions, des habitudes alimentaires, des croyances ou des pratiques religieuses, etc. Mais qu'on va aussi considérer comme étant figées dans le temps. Alors, ça devient des marqueurs identitaires qu'on va considérer comme étant donnés une fois pour toutes par la culture et le pays d'origine de l'immigrant. Et on va faire de ces marqueurs culturels-là des caractéristiques quasiment immuables, essentielles à la perpétuation des versions les plus traditionnelles de telle ou telle culture. Alors, à partir de ce moment-là, la culture qui fonde des communautarismes devient, la culture, un objet figé, aisément identifiable. Les groupes vont être aisément différenciables et marqués par toute évolution, de toute remise en question de l'extérieur. Donc, on va dire, par exemple, un Haïtien ou un Congolais, ou bon, etc. Sa culture, c'est ça. Alors, on va nommer un certain nombre, un listing de caractéristiques qu'on va considérer comme étant fixes, immuables et partagées de façon homogène par tout le monde à l'intérieur de la culture, de ce groupe-là. Donc, phénomène de réification de la culture. On réduit la culture, on enlève tous les aspects dynamiques de la culture, de l'évolution de la culture, puis de la remise en question de la culture, etc., des débats, pour en faire simplement une liste de caractéristiques. Et ça fait l'affaire, évidemment, des sociétés d'accueil. Parce que c'est facile, à ce moment-là, de bien caractériser chacun des groupes. Il y a une fonction un peu pédagogique dans tout ça, mais extrêmement réductrice. La deuxième forme de perversion de la culture, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'essentialisme culturel. Alors, en quoi ça consiste? C'est un peu la conséquence de la réification. L'essentialisme ethnoculturel, c'est le fait de considérer que, sans exception, et sans contestation du tout, chacun des membres d'un groupe ethnoculturel donné va partager et valoriser les mêmes marqueurs culturels. Intégralement, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de contestation de ces marqueurs-là. Bon, un Haïtien, un Français, un musulman va être réputé, par essence, partager les mêmes traits culturels que tous les autres Haïtiens, Français ou musulmans en question. Alors, il y a eu une essentialisation de la culture qui fait en sorte que, encore là, elle apparaît comme quelque chose d'extrêmement figé. Elle fait donc absolument l'impasse sur toute la dynamique qu'il y a à l'intérieur d'une culture, qui est une dynamique de contestation. Il n'y a aucune culture où il n'y a pas des contestations à l'interne. Regardons la culture québécoise. Évidemment, même à l'intérieur des Québécois francophones, tout le monde n'a pas la même idée de la culture québécoise, n'a pas la même conception de sa provenance et de sa destination, ou de ce qu'elle devrait être, ou des éléments fondamentaux sur lesquels on devrait insister. Et c'est le propre de toute culture. Il y a toujours à l'intérieur, la culture est portée par un groupe social, et dans tous les groupes sociaux, ben, il y a des visions différentes, portées par les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les instruits, les moins instruits, etc., et sans parler de la diversité ethnique et religieuse, hein, quelque part. Alors, la culture est toujours contestée, elle est toujours remise en question fondamentalement. Et dans les pratiques multiculturalistes, on met de côté complètement cette dynamique-là par un processus d'essentialisation. On veut encourager la communauté haïtienne, par exemple, à ce qu'elle puisse reproduire ces éléments de culture, mais lesquels? Alors, c'est là que les élites locales ou les élites ethno-culturelles vont jouer un rôle fondamental. Évidemment, dans certains groupes, la dimension religieuse est intimement liée à la dimension culturelle aussi. Et ces élites-là vont faire la promotion de certains marqueurs culturels du groupe qui sont peut-être plus le reflet des traditions ou d'une volonté de défendre des traditions. Mais les traditions telles qu'elles sont conçues, perçues et sélectionnées par cette minorité-là, par ces leaders ethnoculturels-là. Alors, ça pose un certain nombre de questions. Cet essentialisme culturel-là va servir peut-être plus les intérêts de ceux qui souhaitent cultiver la différence au dépens des éléments qui peuvent être partagés avec un socle commun de valeurs propres à la société d'accueil. Et cet essentialisme-là va aussi nourrir, à la limite, l'intolérance qui voit dans ces stéréotypes sociaux et culturels la preuve de la différence indépassable entre les cultures. Donc, le multiculturalisme nourrit, en fin de compte, les barrières entre les groupes au nom du respect ou de la défense de cultures dont la définition va être limitée et réduite à un certain nombre de marqueurs culturels sélectionnés essentiellement, non pas démocratiquement par le groupe, mais par une élite, certains leaders qui vont avoir été repérés et retenus par la société multiculturelle qui a besoin d'interlocuteurs à l'intérieur de ces communautés-là. On le voit dès qu'il arrive quelque chose, par exemple au Québec, on voit dans les médias, c'est à peu près toujours les mêmes porte-paroles de tel groupe ethnique ou de tel groupe religieux, musulman ou autre, qui va être interrogé. Ces gens-là sont devenus les porte-voix d'une certaine image qu'ils se font eux-mêmes de leur propre groupe ethnoculturel ou religieux. Et une image qui n'est pas nécessairement le reflet de la diversité de positionnement qu'il y a à l'intérieur de leur propre groupe. Et ça pose encore une autre question, connexe à tout ça. Évidemment, c'est au nom des respects des traditions. Cette élite ethnoculturelle, elle fait la promotion des traditions. Mais est-ce que le respect des traditions est un principe éthique? Jusqu'où doit-on respecter les traditions? Alors là, c'est bien clair que le respect des traditions, pas plus les traditions d'ailleurs nationale, hein, de la majorité, que les traditions portées par les minorités, elles ne peuvent pas être inconditionnellement justifiées, ni sur une base sociologique, ni sur une base éthique. Les traditions ne peuvent pas servir de justification ni à la tolérance, ni à l'intolérance. Encore moins, être traitées comme un principe éthique. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter aucune tradition, c'est pas ça du tout. Tout groupe a besoin de tradition et il faut qu'une identité nationale ou ethnique ou religieuse repose sur un certain socle de tradition. Mais toutes les traditions, et de façon inconditionnelle, probablement pas. Parce que dans le fond, Et ça, les anthropologues ont réfléchi un peu là-dessus, quand même, peut-être pas suffisamment à mon goût, par contre, parce que même les anthropologues ont tendance à tomber dans ce piège de l'essentialisme culturel. Hein. Un anthropologue travaille à Haïti, il va écrire des livres sur les Haïtiens, la culture haïtienne. On va travailler, moi j'ai travaillé sur la Martinique et sur les Antilles anglophones en partie beaucoup, j'ai publié des bouquins. Alors, je vais parler, par exemple, bon, on va parler de la culture martiniquaise. Moi, je faisais bien attention quand même en disant, là, je parlais de la culture martiniquaise, avec un souci de bien montrer qu'elle est extrêmement plurielle, cette culture-là, qu'elle avait plusieurs versions selon les positionnements politiques, selon les positionnements par rapport à la question de couleur, selon les positionnements par rapport dans les rapports entre la Martinique et la France métropolitaine, par exemple. Et donc, elle était très plurielle. Malheureusement, très peu d'anthropologues, et pas tout le temps, pas de façon systématique, vont tenir compte de cette pluralité-là. Or, cette pluralité-là des traditions, hein, elle doit tenir compte des rapports sociaux asymétriques dans les rapports de pouvoir. Dans toutes les communautés, dans toutes ces sociétés-là, dans toutes les communautés issues du communautarisme, il y a des rapports de pouvoir à l'intérieur de ça. Ma thèse de doctorat était sur la communauté haïtienne au Québec. Ben, elle ne fait pas exception. Je veux dire, il y avait une première vague d'immigration haïtienne qui était composée essentiellement de médecins, un peu aussi d'infirmières ou de professionnels libéraux dans les années 1960. Ensuite, des années 70, on a eu une immigration haïtienne beaucoup plus, entre guillemets, populaire, des gens beaucoup moins scolarisés qui sont devenus chauffeurs de taxi ou qui sont devenus des travailleuses dans les manufactures essentiellement, aussi beaucoup de vêtements et tout ça. Donc, c'est une communauté qui est, comme toute communauté, structurée en fonction de classe sociale. Évidemment, avec des positionnements entre les hommes et les femmes très différents, avec des positionnements politiques extrêmement divers. Par exemple, les Haïtiens qui étaient dans les années 80-90, vraiment dans la mouvance duvalieriste de l'époque, et d'autres qui étaient vraiment beaucoup plus, social-démocrates, beaucoup plus portés vers la démocratie ou à la défense de la démocratie, d'une société profondément divisée sur des bases religieuses, sur un fond vaudou traditionnel, oui, catholique aussi, mais avec à peu près maintenant peut-être de l'ordre de 20 à 30% de la population qui fait partie de sectes protestantes, adventistes du septième jour, témoins de Jéhovah, évangélistes, pentecôtistes et compagnie. Donc, ces groupes-là, ils sont pluriels et ils n'ont pas tous la même comme emprise sur le pouvoir de leur communauté ou sur les droits de parole à l'intérieur de leur communauté. Alors, les traditions, quelles traditions vont être défendues à l'intérieur d'une communauté? Et ça, le communautarisme ne s'est pas posé ces questions-là, très peu en tout cas. Alors qu'il faut se poser la question, souvent parce que le communautarisme dit, on est là quand même pour favoriser et respecter les traditions de chacun des groupes. Traditions, leur langue, bien sûr, leur religion et leur pratique culturelle comme telle. Mais là, tout anthropologue ou sociologue, ou n'importe qui, à mon avis, doit se poser, par exemple, ces questions-là. Une coutume donnée, cette coutume-là, est-ce qu'elle opprime systématiquement certains sous-groupes ou certaines populations? Est-ce que cette tradition-là engendre plus de conséquences négatives que de bénéfices pour l'ensemble de la communauté? Ou est-ce qu'elle engendre plus de conséquences négatives pour certains sous-groupes à l'intérieur de la communauté? Est-ce que cette tradition-là implique la coercition de certains individus? On sait comment, dans certaines religions, le respect de la religion est très, très coercitif. Hein? Les pressions pour le respect des traditions religieuses sont extrêmement fortes. Est-ce que ces traditions-là, quels intérêts elles servent? Les intérêts de qui est-ce qu'elles servent? Si on respecte telle tradition, exemple, le mariage forcé, ça sert les intérêts de qui dans la communauté? Probablement pas l'intérêt des femmes, ni l'intérêt des adolescentes qui doivent subir ces mariages forcés-là, mais ça sert les intérêts certainement de certains groupes d'hommes, et peut-être pas de tous les groupes d'hommes, non plus. Parce qu'encore faut-il avoir les moyens d'avoir accès, comme conjoint, vraiment, à un mariage forcé, parce qu'il faut payer, évidemment, pour ces mariages-là. Et dans la logique du statu quo, les traditions, c'est quand même le statu quo. Qui bénéficie du changement dans les pratiques culturelles et qui bénéficie du statu quo? Quand on fait la défense des traditions, on défend un statu quo, quoi, une stabilité. Alors, on sait que ces valeurs religieuses ou les valeurs sociales, les valeurs politiques, sont évidemment, ont tendance à plus favoriser les intérêts de certains sous-groupes de la société. Alors, qui bénéficie vraiment du respect des traditions et qui est desservi? Quels sont les sous-groupes qui sont desservis par le respect des traditions? Bref, autrement dit, dans le débat sur le multiculturalisme, il faut ouvrir le débat. On ne peut pas se taire pour revenir à la question initiale. Non, il faut s'engager dans le débat, mais avec une analyse empirique des choses. Communauté par communauté, faire des études de cas. Parce que la problématique n'est pas du tout la même, ça risque à Montréal, entre la communauté polonaise, par exemple, la communauté haïtienne, la communauté dite musulmane, hein, faut voir, là je fais une petite parenthèse là-dessus, la communauté musulmane, qui n'existe en fin de compte que dans la tête de gens qui ne sont pas musulmans. Parce que parmi les musulmans, les gens ils se disent, non, moi je suis un Nigérien, ou moi je suis un Arabe, ou moi je suis un Marocain, ou etc. Ces gens-là continuent à s'identifier beaucoup plus en fonction de leur pays d'origine, ou en fonction d'une certaines sectes à l'intérieur, ou certaines orientations à l'intérieur de la communauté musulmane. Mais voilà, hein, faut se poser des questions critiques à ce niveau-là, et c'est le mandat des sciences sociales de le faire en se posant des questions qui sont un peu délicates. Dans tel groupe, qui a intérêt finalement à ce que ce communautarisme-là soit maintenu ou soit encouragé? Même s'il est encouragé, à la limite, initialement, dans les pays multiculturalistes, pour des raisons humanitaires par les pays. Mais après 30 ou 40 ans ou 50 ans d'expérimentation, on voit que, ce sont pas automatiquement des valeurs humanistes qui sont, enfin, respectées ou promues, et ce ne sont pas toutes les valeurs humanistes, certainement, qui sont respectées à travers cette pratique communautaire.
Vous consacrez tout un chapitre au cosmopolitisme, qui est un peu le rêve ultime des humanistes, et là, je vais vous citer ici, une petite portion de votre livre. Un nouvel humanisme est proposé avec comme figure ultime un individu dénationalisé, libre de se définir par et pour lui-même, à travers ses choix, son potentiel, et libéré de toute contrainte collective. Alors ça, c'est le rêve de tout humaniste qui se respecte. Mais vous savez penser, correctement sans doute, là, je vous pose la question, qu'il s'agit d'une utopie. Alors, est-ce que vous pouvez développer vos conclusions là-dessus?
Oui, enfin, là, ici, on est complètement dans une logique différente, mais totalement même opposée au communautarisme. Le communautarisme, en fin de compte, implicitement, il soutient que le bonheur passe par la communauté, hein, repliée sur elle-même et par la défense de ses traditions, de sa culture et tout ça. Donc, l'équilibre ou le bonheur ou même la défense des intérêts des gens passe par ce repli sur la communauté. Alors que dans le cosmopolitisme, on est complètement aux antipodes, là. Alors, il faut la réalisation de l'humain passe justement par son affranchissement de toutes ces formes d'identité imposées, identité nationale en particulier. Il faut transcender nos identités nationales comme Québécois ou comme Canadiens, selon les orientations politiques, et se projeter comme un citoyen du monde. Mais même plus que ça, il faut s'affranchir même de nos identités politiques radicales ou de nos identités écologiques ou de nos positionnements. Il faut s'ouvrir. Hein. Le cosmopolitiste, l'individu cosmopolite, une fois qu'il s'est affranchi de l'identité nationale, doit encore s'identifier, même à la limite, juste, il va s'affranchir de ses positionnements politiques radicaux, mais même à ce moment-là, ses identités de sexe, hein, de genre, à quelque part. Il devient donc un citoyen du monde, c'est-à-dire transnational, mais en même temps avec une identité poreuse et ouverte à toutes les influences au niveau politique, culturel et sexuel et tout. Alors, et oui, il s'agit d'une utopie, évidemment. Enfin, évidemment, ça dépend. Pas tout le monde croit que c'est vraiment une utopie. Enfin, bien que sont très, très rares les auteurs qui vont défendre que oui, regarde, on va y arriver, et c'est un objectif louable d'ailleurs, mais non seulement louable, mais atteignable. Bon, ce sont très rares ceux qui vont défendre cette position-là, évidemment. Mais et ils le font au nom aussi de la promotion d'une tolérance. Hein. C'est une tolérance cosmopolite. C'est-à-dire que si on s'est affranchi de nos identités, ces ancrages identitaires-là, évidemment, ça implique qu'on va s'ouvrir à l'autre. Hein, on va avoir une tolérance cosmopolite, parce que, tout au moins au plan culturel. Et donc, dans ce sens-là, c'est un idéal à viser. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va contredire que ça peut être un idéal. Enfin, bien que ce sujet vraiment en débat, je pense j'en débat dans ce chapitre-là, je pense, de façon assez sévère. Je pense, c'est un peu utopique, enfin. Et cette utopie-là, elle vient finalement de quoi? Elle vient un peu de ceux qui en sont les porteurs de cette idéologie-là, de cette utopie-là. Les écrivains ou les auteurs qui en sont les promoteurs de ce cosmopolitisme-là. Et là, avant de parler de ces gens-là, j'ai oublié, faut quand même faire une distinction. Entre le cosmopolitisme politique et le cosmopolitisme culturel. Alors, évidemment, cosmopolitisme politique, ça, évidemment, c'est plus facile à défendre, dans le sens que on est déjà un peu dedans. C'est-à-dire, plutôt que d'un repli de chacun des pays sur soi-même, des nations qui se replient sur elles-mêmes, on reconnaît la pertinence d'une communication entre les nations et d'une collaboration entre les nations. Et depuis, bon, évidemment, la Société des Nations, entre les deux guerres, et puis bon, l'ONU après la Seconde Guerre mondiale, on reconnaît évidemment qu'il y a une pertinence pour qu'il y ait des organisations internationales qui nous aident un peu à gérer les tensions, les conflits, etc. En passant entre autres par l'Organisation mondiale de la santé d'ailleurs. Les gens ne sont pas tous conscients de ça, mais l'Organisation mondiale de la santé, bon évidemment, elle a comme but d'assurer un accès à la santé pour tous dans tous les pays. Mais le mandat de base de l'OMS était de diminuer les inégalités socio-sanitaires dans la planète, parce qu'on voyait les inégalités socio-sanitaires comme des ferments de tensions politiques, même de guerre potentielle. Parce que les inégalités économiques, mais les inégalités sanitaires aussi entre les pays, peuvent alimenter des conflits, quelque part. Donc, ce cosmopolitisme-là politique, il est souhaitable. Et d'ailleurs, au cours depuis certainement 60 ou 80 ans, on a mis sur pied tout un ensemble d'organisations internationales qui visent justement à favoriser ce débat, ce dialogue et cette concertation-là internationale. Mais là, ce dont je vais parler surtout, c'est du cosmopolitisme culturel, disons. C'est-à-dire cette volonté-là de fusion des cultures ou de transcender les cultures et d'aller au-delà des marqueurs culturels propres à chacun des groupes. Évidemment, là, c'est là qu'on est complètement en opposition avec la philosophie multiculturaliste. Hein? C'est bien clair à ce moment-là. Alors, je reviens aux promoteurs de cette forme de cosmopolitisme culturel. Et je pense entre autres à Salman Rushdie, par exemple, qui a écrit des livres extrêmement intéressants là-dessus, mais de plein d'autres intellectuels, j'en nomme plusieurs dans mon bouquin. Mais ils sont des jet-setters, finalement. Hein, ce sont des gens qui ont fait des carrières internationales. Ils sont, par exemple, peut-être des universitaires qui se promènent d'un pays à l'autre, d'un colloque à l'autre, d'un congrès international à l'autre, qui sont toujours en avion, dans les hôtels, qui se promènent, qui sont en contact avec plusieurs pays, avec des intellectuels de plusieurs autres pays. Alors, eux-mêmes, c'est pas que ces gens-là n'iront pas jusqu'à renier leurs racines, leur identité culturelle propre. Mais ils sont vraiment sensibilisés aux avantages du contact avec l'autre et de la discussion avec l'autre. Ils sont dans un contexte très favorable pour ça. Maintenant, moi, j'ai appelé ça une erreur de projection. C'est-à-dire que soit ces intellectuels-là ou des gens qui travaillent à l'international, que ce soit dans les ONG, par exemple, où ils vont travailler dans différents pays, ou les cadres supérieurs de multinationales qui vont bouger constamment d'un pays à l'autre pour aller faire la gestion d'une filiale, d'une compagnie multinationale dans un pays, ces gens-là vivent dans un monde un peu, je dirais pas artificiel, parce qu'il existe bel et bien ce monde-là, mais c'est une extrême petite minorité, on est beaucoup moins que dans le 1% de la population planétaire. Alors ces gens-là voient dans leur propre migration, dans leur propre mouvement international, leur déplacement, j'entends, une façon de réaliser ce cosmopolitisme-là. Et donc, ils se projettent dans l'ensemble des populations. La réalité, par contre, de l'autre 99% et plus des gens, cette réalité-là est autre. Quand les cosmopolitistes font, par exemple, parlent de la migration, de l'ouverture, la migration comme un outil d'ouverture au monde, oui, mais d'abord, soyons réalistes, d'abord, les pays ont tous une certaine limite à la capacité d'accueil de ces migrants-là, et tout le monde a à peu près des quotas, tous les pays se donnent des quotas d'immigration. Donc, cette migration-là, elle ne peut pas être généralisée, elle ne peut pas être totale, parce qu'évidemment, il y aurait des impacts politiques locaux et culturels locaux certainement aussi importants. Mais de l'autre côté aussi, les migrants eux-mêmes, ces migrants-là, ils ne choisissent pas, par exemple, les migrants africains qui, au péril de leur vie, essaient de traverser la Méditerranée pour aller en Europe, ou les migrants d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale qui, au péril de leur vie aussi, vont tenter de passer le mur, les murs érigés par Trump en particulier pour se rendre aux États-Unis. Les migrants qui ont été des migrants forcés suite à des guerres nationales et qui se retrouvent dans des camps de réfugiés suite à des guerres civiles, ces gens-là, c'est pas la migration du jet-setter. C'est des migrations imposées, des migrations forcées pour des raisons politiques, militaires, des raisons économiques. Et on n'est pas dans un cosmopolitisme, hein, ou sinon un cosmopolitisme forcé, imposé et complètement déshumanisant, à la limite. On est loin d'un cosmopolitisme comme étant une forme d'humanisme. Alors, il faut revenir un peu sur les présupposés de ce cosmopolitisme-là. Oui, c'est une belle utopie. Au plan politique, on peut en réaliser, on peut aller assez loin dans cette forme-là. Au niveau culturel, il faut quand même reconnaître d'abord que ce mouvement le mouvement de la culture est lié au mouvement des individus, et que ce mouvement-là planétaire des migrants, il est de façon très, très générale, imposé, et vraiment préjudiciable aux migrants qui le font au péril de leur vie, dans certains cas. Et là, on ne parle pas des migrants économiques qui sont une petite minorité là-dedans, qui ont le loisir un peu de butiner, un peu de magasiner un peu leur pays d'accueil parce qu'ils ont un capital à investir ou ils ont eux-mêmes un bagage de formation universitaire, par exemple, où ils pratiquent une profession qui est en demande. Mais le cas, la réalité des dizaines de millions de migrants, ce n'est pas ça du tout. Et en même temps, le cosmopolitisme présuppose que ces migrants-là, ils migrent parce qu'ils souhaitent s'ouvrir à d'autres cultures ou parce qu'ils veulent se libérer de leur propre culture d'origine. C'est pas du tout le cas. La grande majorité, si on faisait une étude empirique, la grande majorité de ces migrants-là, ils souhaitent conserver leur langue et conserver leur culture. Ils émigrent parce qu'ils y voient une nécessité économique ou une nécessité de survie pour leur sécurité, parce que leur sécurité est menacée, fait qu'on a leur pays d'origine à cause de leur position politique ou autre, là, quelque part. Alors, l'idéologie cosmopolitiste, elle frappe une limite, c'est-à-dire qu'en grande majorité sur la planète, les gens ne souhaitent pas se libérer de leur identité religieuse ou culturelle, et peut-être encore moins sexuelle, à la limite, comme telle. Alors, il y a une erreur de projection. Ces discours-là sur le cosmopolitisme sont intéressants parce qu'ils suscitent le débat. Ils font le contrepoids, ou ils prennent le contre-pied des débats multiculturalistes. Et dans ce sens-là, c'est positif, quoi. Mais il faut être prudent pour ne pas projeter comme intellectuel, mettons universitaire, qui se balade à travers le monde en faisant des conférences internationales, et de penser que la vision qu'on a du monde et des rapports au monde, cette vision-là, elle est partagée et voire même concrètement partageable de façon réaliste par l'ensemble de la population du monde qui, elle, est repliée finalement dans ses identités nationales, voire même dans sa tribu locale.
D'accord. Finalement, un des derniers sujets que vous abordez dans votre livre est celui de la liberté de religion. Alors, je peux parler par expérience quand je vous dis que c'est difficile de critiquer les religions. Toutes les religions, sans se faire traiter d'intolérant ou pire, d'islamophobe, là, c'était la mode maintenant. dis toujours que les croyants méritent le respect, mais pas la religion qui, selon moi, mérite d'être critiquée comme n'importe quelle autre idée, sur la base des faits et de la raison. Il en est de même pour les critiques de la laïcité. Quelle est votre position là-dessus?
Oh, ma position, elle est extrêmement claire. D'évidence, la religion, et toutes les religions, doivent accepter la critique et doivent se soumettre à la critique. Et moi-même, j'ai fait quand même l'expérience assez directe de difficulté d'écrire de façon critique sur la religion au Québec, y compris même avec la publication du bouquin sur la tolérance, mais même pour d'autres bouquins qui viennent aussi. Dès qu'on aborde un discours critique sur la religion au Québec, mais je pense que c'est pas propre au Québec, là, mais en fin de compte, on doit un peu mettre des gants blancs, hein, faut être prudent. Même quand on en traite avec prudence, et dit avec nuance, non, on est facilement la cible de critique et voire même peut-être de boycottage dans certains cas. Et de critiques, disons, extrêmement virulentes qui sont préjudiciables. Mais c'est clair, non, la religion, elle doit accepter la critique. Et la critique, d'ailleurs, pas simplement de la part de l'extérieur, mais la critique aussi de la part de membres de l'intérieur de la religion. Parce que ça, c'était un autre débat aussi sur lequel on ne porte pas souvent. On va avoir tendance à écrire sur les religions, et nous, on a une position soit comme athée ou soit comme membre d'une religion, mais on va débattre de d'autres religions qui sont des entités, considérées d'ailleurs un peu réifiées et essentialisées, comme je disais tantôt, c'est-à-dire des groupes homogènes. Alors que la tolérance aussi, elle doit s'appliquer à l'intérieur même d'une religion. Mais évidemment, la tolérance et la religion, c'est pas facilement conciliable. Chaque religion a ses dogmes. Certaines sont plus portées que d'autres sur le dogmatisme. Mais il y a des dogmes religieux qu'on ne peut pas remettre en question. Enfin, on peut les remettre en question. Mais à ce moment-là, on doit changer de religion. Hein, on dit, bon, écoutez, dans la religion catholique ou dans l'islamisme, pour les juifs, c'est un peu la même problématique. Si on n'accepte pas certains dogmes de base, évidemment, on ne peut plus être considéré comme étant un membre à part entière de cette communauté-là. Il y a des barrières extrêmement sévères. Donc, la tolérance doit aussi être promue à l'intérieur même de la religion, en dépit des limites d'un débat ouvert sur la religion. On le voit très bien dans le catholicisme. Tenir un débat, par exemple, sur l'avortement au sein du catholicisme, c'est pas simple. Même un débat sur la fin de vie. On voit les poches de résistance qui sont extrêmement violentes. Et là, je ne parle même pas des dogmes religieux de base. Je parle même de problématiques de société. Mais, bon, ceci dit, la religion, elle doit être objet de critique pour plusieurs autres raisons aussi. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de croyances. Et les croyances, bon, dans les religions, la plupart des croyances sont indémontrables. Et elles-mêmes se soustraient à toute démonstration. C'est par la foi. C'est un acte de foi que l'on fait dans chaque religion sur certains dogmes ou certaines croyances qui sont promues par la religion. En même temps, souvent même ces croyances-là, ces dogmes-là, reposent sur des sources extrêmement critiquables. Hein, les sources historiques, dans le cas du catholicisme, on sait très bien tous les travaux qui ont été faits dans les dernières décennies sur les sources de la Bible. Bon, évidemment, dans la Bible, on a mis de côté plein de livres, hein, d'apôtres, parce que ça n'allait pas dans la construction homogène et d'apparence cohérente qu'on souhaitait de la Bible. Alors, on a mis plein d'épîtres apocryphes, par exemple, hein, qui sont mis de côté parce qu'ils contredisent les discours ou les croyances ou enfin les propos avancés par d'autres apôtres. Donc, évidemment, déjà, les dogmes religieux sont déjà l'objet de constructions faites historiquement dans certains cas, depuis des siècles et des siècles, même des millénaires, par chacune des religions. En même temps, ces dogmes-là, non seulement ils ont fait l'objet d'une sélection, mais à travers l'histoire, ils ont été réinterprétés à multiples, puis des interprétations parfois complètement par des théologiens, parfaitement contradictoires. Alors là aussi, bon. Alors donc, on est face à des dogmes dont les sources de véracité sont discutables, débattables certainement, et même la définition, non seulement la sélection, mais même la définition et l'interprétation de ces dogmes-là font l'objet de débats à l'intérieur de chacune des églises, mais ces débats-là sont tranchés, en fin de compte, par des autorités qui vont dire, ben non, nous, on retient cette version-là. Alors, donc, on est face à des dogmes sélectionnés, réinterprétés et modulés, ou préparé. Donc, effectivement, objet de critique, certainement. Et par les théologiens eux-mêmes à l'intérieur de la religion, mais aussi par les gens qui sont à l'extérieur. Alors, les croyances qui constituent un défi pour la tolérance, par exemple, sont surtout celles qui se refusent à toute analyse critique. Évidemment, dans le cas des dogmes religieux, on va invoquer la foi et les dogmes religieux, et donc la plupart sont rejetés. Mais surtout, les religions ne peuvent pas être au-dessus des critiques lorsqu'elles ont des prétentions sociales et politiques. C'est-à-dire que lorsque la religion prétend avoir droit au chapitre dans des débats de société, dans l'interférence avec des normes sociales ou des politiques sociales, où elle devient un interlocuteur ou un acteur politique, évidemment, là, ils s'exposent à la critique. Surtout lorsqu'ils défendent des pratiques sociales comme, par exemple, l'avortement ou la fin de vie, l'euthanasie ou des choses comme ça, lorsqu'ils défendent ça au nom de dogmes religieux qu'ils veulent soustraire au débat, alors là, ils portent flanc à la critique, évidemment. Tant qu'on reste à l'intérieur d'une religion, on y est, par acte de foi, on les accepte, bon, avec peut-être une marge de critique, ou un peu de recul critique, évidemment. Les gens ne sont pas tous suiveux, serviles, bien entendu, mais on accepte les règles du jeu. Ben, on est à l'intérieur d'une communauté qui a ses propres règles. Lorsque la communauté veut s'imposer comme acteur social et acteur politique dans la société, le cas des États-Unis est maintenant absolument dérangeant à ce compte-là. On est vraiment dans un système, hein, une des dictatures religieuses, en fin de compte, les plus sévères, les plus radicales dans le monde. On est dans un pays d'intégrisme religieux, avec une droite religieuse qui, depuis 30 ou 40 ans, enfin surtout depuis Bush fils en particulier, on est vraiment dans une présence, une bipolarisation avec d'un côté le Parti républicain qui vraiment doit son succès politique au soutien radical que lui offre encore aller jusqu'aujourd'hui les groupes religieux traditionnalistes intégristes. En tout cas, bon, bref. Non. Mais donc, lorsque les religions veulent investir le terrain social et politique, évidemment, forcément, non seulement ils s'exposent à la critique, mais on a un devoir de les critiquer. Surtout parce qu'ils veulent imposer, mettons, des normes, bon, qu'ils les imposent, évidemment. Si on est catholique, on est contre l'avortement, et logiquement, un bon catholique ne devrait pas pratiquer l'avortement, ou un bon protestant, hein, un bon pentecôtiste, un bon évangéliste, un témoin de Jéhovah, ne devrait pas pratiquer l'avortement, parce que, bon, écoute, ça va à l'encontre de la religion. Si on ne peut pas là. C'est un choix. Enfin, bon, on sait que bon, le choix est plus ou moins libre, surtout pour les enfants qui ont été élevés, éduqués dans ces religions-là. Mais quand même, je veux dire, il y a un choix, une liberté de choix qui est là. Mais lorsque ça veut être imposé, on veut l'imposer à l'ensemble de la population, y compris à des gens de d'autres religions qui ne partagent peut-être pas ces mêmes positions-là par rapport à des positions sociales, et surtout par rapport à des athées qui, eux, ne partagent aucune croyance religieuse, alors on est carrément dans des mouvements quasiment fascistes. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui visent à imposer leur vue à des gens majoritaires dans une société, mais qui ne pensent pas comme eux. Et on le refuse même à ces gens-là, tout débat critique sur leur dogme. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça accroche à quelque part. À partir donc au moment où les religions, avant même qu'ils aient des positions sociales, moi je pense qu'on peut aussi les critiquer. Ils existent, ils sont là dans la société, voilà. Évidemment, la tolérance fait en sorte que tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut, tant qu'évidemment, ça n'interfère pas avec le mode de vie ou les croyances ou les valeurs fondamentales de ceux qui sont à l'extérieur de leur propre religion. Bon, ça va. Mais évidemment, à partir du moment où là, on a des prétentions sociales, on veut s'investir dans des débats de société, hein, lorsqu'on veut, par exemple, aborder des débats sur la sexualité, si on est contre l'homosexualité, si on est contre la théorie des genres, si on est contre la... Bon, évidemment, je mentionnais l'avortement, mais même la contraception. Lorsqu'on est contre une certaine façon de voir l'égalité dans les rapports hommes-femmes, lorsqu'on est contre, par exemple, la promotion de l'enseignement religieux dans des écoles laïques, dans des sociétés laïques comme le Québec, bien là, évidemment, là, on s'expose à la critique. Et il faut l'accepter, la critique, à ce moment-là. et non pas se replier à, derrière le dogme religieux en disant « Non, vous ne pouvez pas nous critiquer parce que nous défendons nos traditions. » Vous défendez vos traditions, mais vous invoquez vos traditions religieuses pour imposer vos vues à l'ensemble d'une communauté qui ne les partage pas. Ou qui n'en partage d'ailleurs aucune tradition religieuse, parce qu'on sait que, bon, les athées maintenant sont, on est, les athées, je me mets dans le groupe, là, nous sommes maintenant la troisième religion du monde, hein, les athées. Hein. Les statistiques sont assez claires là-dessus maintenant. Et au Québec, bon, on est dans un taux d'athéisme. Évidemment, Daniel Barry, entre autres, en a déjà discuté abondamment. Évidemment, tout dépend des critères qu'on utilise pour définir l'athéisme, le degré d'athéisme de quelqu'un. Mais on est certainement dans les 20 à 30 minimum de population athée au Québec. Alors, évidemment, cette population-là, qui ne partage aucun des dogmes religieux ou ne reconnaît aucune autorité à des églises, ou à des porte-paroles, ou à des leaders religieux, quels qu'ils soient, ben eux, ils ont un peu le droit de réagir un peu par rapport à ça, et de se positionner et d'être critique par rapport à la religion. Alors donc, oui, la religion s'expose à la critique, et non seulement ils doivent s'ouvrir à la critique, mais ils doivent s'ouvrir même à la critique à l'intérieur de leur communauté, mais même comme laïcs, et encore peut-être forcément comme athées, bien, nous avons même un devoir social de critique de la religion lorsqu'elle veut, lorsqu'une religion, des religions, souhaitent imposer ou contrevenir à des normes sociales, d'ailleurs des normes sociales votées démocratiquement dans une société démocratique. Hein, parce que, bon, les politiques sur l'avortement ou la fin de vie, que je donnais en exemple tantôt, ou la laïcité des écoles, ces politiques-là ont été votées par un parlement avec dans une population démocratique suite à des débats, à des discussions ouvertes avec d'ailleurs les groupes religieux. Mais là, qui vont dire qu'ils n'ont pas été consultés, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été entendus, parce qu'ils ont été amplement consultés. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu d'être consultés pour donner leur point de vue avec général. Mais bon, ça, c'est comme un trait de caractère dans nos sociétés. C'est la même chose qu'on voit dans les débats syndicaux. Nous n'avons pas été consultés. Et ce qu'on veut dire à ce moment-là, c'est que nous n'avons pas été entendus totalement dans nos récriminations, nos revendications.
J'aimerais mentionner que M. Massé a fait une conférence au Centre humaniste du Québec sur le même sujet, en juin 2022. Alors, si vous désirez en savoir plus, je vais mettre un lien sur la vidéo de la conférence dans la description du balado. Également, vous pouvez vous procurer son livre, « La tolérance pervertie » sur le site des Belles Lettres. Je vais mettre le lien également dans la description du balado. Alors, merci M. Massé d'avoir pris le temps de nous parler. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en savoir plus sur l'Association humaniste du Québec, vous pouvez visiter notre site web à assohum.org, c'est assohum.org, ou notre page Facebook. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel info@assohum.org. Alors merci, et nous vous donnons rendez-vous au prochain balado humaniste.